Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant de commencer le cours, petit rappel pour les retraites. Je vous rappelle que j'ai prévu 6 retraites pour cette année 2022. La première retraite, dans ces retraites, je les prêche dans un gîte tout proche de chez moi, donc à la limite entre le Tarn et l'Aveyron, au nord d'Albi. Donc la retraite de Semaine Sainte est pleine. Par contre, j'ai beaucoup de place pour la retraite du 25 avril au 30 avril, parce que j'ai eu des annulations pour celle-là. Et j'aimerais bien pouvoir la remplir, que je le sache à l'avance. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, cherche surtout du monde pour la retraite qui commence le 25 avril, lundi, jusqu'au samedi 30 avril. Donc c'est toujours pareil, les exercices Saint-Ignace selon la méthode du Père Vallée. Et j'ai des places pour les autres retraites, 16 mai au 21 mai, 6 juin au 11 juin, 12 septembre au 17 septembre, 3 octobre au 8 octobre. Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés parmi ceux qui m'écoutent sur Internet, eh bien, n'hésitez pas à me contacter assez rapidement pour que je puisse m'organiser dans les locations de gîtes. J'ai besoin de savoir combien il y a de personnes. Merci, que le bon Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous continuons le chapitre 6 de Saint Jean. On avance. Nous en sommes au verset 15 à 21, sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église. Pour les chapitres 6 à 10, à la page 3. Voilà le texte que nous allons méditer ensemble, donc versets 15 à 21 du chapitre 6 de Saint Jean. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, s'enfuit de nouveau tout seul sur la montagne. Et lorsque le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils s'avancèrent vers Capharnaüm, de l'autre côté de la mer. Or il faisait déjà nuit et Jésus n'était pas venu avec eux. Cependant, la mer se soulevait au souffle d'un grand vent. Lorsqu'ils eurent ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus qui marchait sur la mer et qui s'approchait de la barque. Ils eurent peur, mais il leur dit, « C'est moi, ne craignez point. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt la barque se trouva au lieu où ils allaient. Donc les gens ont assisté à ce miracle de notre Seigneur Jésus-Christ qui a nourri donc 5000 personnes avec quelques pains et quelques poissons, et donc ils veulent l'enlever pour le faire roi. Et notre Seigneur Jésus-Christ sait que ce n'est pas encore son heure, bien qu'il soit roi, attention. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi par nature, parce qu'il est créateur, et par droit de conquête, parce qu'il est rédempteur. Cependant, il ne manifeste pas encore sa royauté socialement parlant, parce qu'il veut prêcher l'évangile. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église sur le texte. Donc c'est en bas de la page 3. Notre Seigneur nous enseigne que lorsque nous sommes dans la nécessité de fuir, qu'il nous faut recourir. Notre Seigneur nous enseigne que c'est surtout lorsque nous sommes dans la nécessité de fuir qu'il nous faut recourir à la prière. Il leur apparaît après les avoir quittés. Il veut leur apprendre d'un côté ce que c'est que l'abandon et le délaissement et rendre leur amour plus vite, plus vif, et de l'autre, leur manifester sa toute-puissance. C'est facile de prier quand tout va bien. Et le bon Dieu nous demande aussi de prier quand tout va mal. C'est facile de prier quand on a l'impression qu'on est capable de surmonter tous les obstacles par nos propres forces. C'est beaucoup plus difficile de prier quand on se rend compte qu'on ne peut rien par nous-mêmes. Mais d'un autre côté, c'est aussi plus facile de prier précisément quand on se rend compte qu'on est un instrument absolument tellement minime, tellement petit qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes. J'ai remarqué qu'il est parfois plus facile de prier lorsque, eh bien, humainement parlant, il n'y a plus de solution. On voit très bien, vous connaissez la formule habituelle, lorsque les bombes commencent à tomber pendant la guerre, c'est là où les hommes se retrouvent rapidement et spontanément la route qui les mène à la porte du confessionnal, à la porte du Saint-Sacrement, à la porte de l'Église. Pour cela que le bon Dieu est capable d'utiliser des choses qui sont souvent mauvaises, comme les guerres, pour amener les gens à se rapprocher de lui. Combien de personnes se sont sauvées, ont sauvé leurs âmes, par exemple, pendant les deux premières guerres mondiales, alors qu'il y a eu une hécatombe de jeunes gens de 18-20 ans, ou de 20-25 ans, entre 18 et 25 ans, je dirais, qui sont morts dans les tranchées, dans les boucheries épouvantables, qui en plus c'était des boucheries pour rien, littéralement. Eh bien, beaucoup de ces jeunes qui sont morts ont pu sauver leur âme grâce à la guerre, parce qu'il y avait dans ces tranchées aussi des aumôniers qui étaient là et qui, au risque de leur vie, passaient de tranchée en tranchée pour donner l'absolution, confesser à tour de bras. Et après les batailles, ils allaient sur le No Man's Land entre les deux tranchées, tranchées françaises et tranchées allemandes, pour confesser. Ils ne s'occupaient pas de savoir s'ils confessaient des Français ou des Allemands. Ils parlaient en général les deux langues et ils confessaient énormément. Et beaucoup de jeunes ont pu sauver leurs âmes grâce à cela. Donc il faut donc prier, surtout quand nous avons l'impression d'être seuls, quand nous sommes délaissés, l'abandon. Afin de rendre, disent les pères, notre amour plus vif. Je crois que c'est très important à comprendre parce que une des choses qui est la plus difficile à supporter pour nos fidèles, surtout les jeunes, c'est l'isolement. Ici, les pères utilisent un autre mot, le délaissement, l'abandon, le délaissement. Mais l'abandon, le délaissement, c'est un peu l'isolement, c'est un peu la même chose. Beaucoup de nos jeunes ont du mal avec cette isolation, cet isolement nécessaire dans le sens que à partir du moment où on est catholique, bon, ben, on est obligé par la force des choses, ben, de couper avec beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de situations qui sont devenues des occasions de péché. Combien de fois j'ai des jeunes qui viennent faire par exemple les retraites, qui sont, avant de venir faire la retraite, au début de la retraite, qui sont des catholiques un peu superficiels, et qui se rendent compte en préparant leur confession générale, qui viennent me voir, qui me disent, Monsieur l'abbé, si je veux vraiment devenir catholique pratiquant et vivre selon ma foi, il va falloir que je dise non toute la journée. Ah, ben oui, c'est exactement ce que demande le bon Dieu dans bien des cas. Ah, mais monsieur l'abbé, ça veut dire que je vais devoir changer tous mes amis et abandonner tout ce que je fais sur le plan social parce que tous mes amis sont des gens qui me poussent vers le bas. Eh bien, si vos amis vous poussent vers le bas et vous enfoncent la tête dans la boue, c'est que ce ne sont pas des bons amis. Vous voyez? Il est évident que dans bien des cas, une conversion entraîne un changement total de façon de vivre, un changement total de façon de s'habiller, un changement total de façon d'éduquer ses enfants. Et j'ai vu, de mes yeux vus, avec la grâce du bon Dieu, pas qu'une seule fois, des gens qui ont fait les exercices de Saint-Ignace et qui sont rentrés chez eux complètement transformés, qui ont compris qu'il fallait, afin de manifester leur amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, changer beaucoup de choses. Et lorsque les jeunes m'en parlent, je leur pose toujours la même question. Ils me disent, Monsieur l'abbé, c'est très difficile parce que j'ai l'habitude d'aller tous les vendredis soirs, je vais boire un coup avec mes potes, comme ils disent, avec mes copains, et puis on va boire un coup dans un bar de la ville pour s'amuser un peu, se détendre un peu. En soi, d'aller boire un coup avec ses amis, c'est pas un péché. Mais dans la pratique, les bars de la ville, dans les grandes villes surtout, les bars sont aussi des tripots dans lesquels le démon fait des pêches miraculeuses, littéralement tous les soirs. Et si vous savez très bien qu'à chaque fois que vous allez dans ces bars, vous allez être tenté de trop boire, vous allez être tenté de toucher la drogue, vous allez être tenté de courir un peu les filles légères qui se rencontrent dans ce genre de lieu, eh bien, vous allez être obligé pour pouvoir rester en état de grâce, et bien de couper avec ces choses-là. N'oublions pas que le bon Dieu nous demande, exige de nous d'éviter les occasions prochaines volontaires de péché grave. Et pour la plupart des gens, aller boire un coup avec des copains dans un bar le vendredi soir, dans bien des cas, et c'est pour nos jeunes une occasion prochaine volontaire de péché grave. Donc, si vous êtes capable, quelqu'un me dirait, Monsieur l'abbé, moi, tous les soirs, tous les vendredis soirs, je bois un coup avec des amis, mais ce sont tous des amis de la chapelle, ce sont des types bien, on va boire, on va prendre une bière, on va prendre une bière ensemble, on discute un peu, on joue aux fléchettes dans le bar. Et il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de situation alambiquée avec les jeunes filles, il n'y a pas de problème de ce genre, on reste tous en état de grâce. Alors là, oui, vous pouvez, vous avez le droit. Mais c'est plutôt rare. Donc notre Seigneur Jésus-Christ veut donc apprendre aux fidèles à se tourner vers lui lorsque nous sommes justement dans l'abandon, dans l'adolescence, dans l'isolation. C'est vrai que je dois avouer que c'est quelque chose de très très difficile. De plus en plus, les jeunes nous en parlent, et les moins jeunes aussi, monsieur l'abbé, c'est qu'on est quand même très très isolé, on ne peut plus rien faire. C'est un énorme problème pour les jeunes enfants, les familles avec des jeunes enfants, qui nous disent, mais monsieur l'abbé, avec nos enfants, nos jeunes enfants, et aussi avec nos adolescents, c'est très très compliqué, parce qu'on fait l'école à la maison pour les protéger, mais du coup, ils n'ont plus beaucoup de vie sociale. Eh bien, il faut comprendre que le bon Dieu, qui sait ce qu'il fait, eh bien, va donner à vos enfants les grâces d'état dont ils ont besoin pour arriver à tenir le coup, même s'ils n'ont pas beaucoup de vie sociale. Et puis, je pense qu'il y a aussi un effort que les parents doivent faire pour arriver à se retrouver avec d'autres familles, même si c'est une fois de temps en temps, se retrouver avec d'autres familles pour qu'il y ait cette vie sociale et que les enfants puissent rencontrer d'autres enfants de leur âge, mais qui sont des enfants catholiques. Bon, c'est vraiment compliqué, je l'avoue, dans les petites chapelles. Petites chapelles. Je tiens beaucoup dans la petite chapelle de Pallies. On a quoi? On a entre 10 et 18 personnes ou 20 personnes le dimanche, à la messe à peu près. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens, c'est une petite chapelle. Et je tiens à ce qu'il y ait cette vie sociale, et c'est pour ça qu'après les messes, tous les dimanches, on se retrouve dans la salle à manger, on est un peu tassés les uns sur les autres. Pas la salle à manger, excusez-moi, la cuisine est petite. On prend un café ensemble, on prend un petit gâteau ensemble. Il y a des gens qui amènent parfois quelque chose à manger, puis on grignote ensemble et on boit quelque chose ensemble, un café ensemble ou un thé ensemble. Et c'est très très bénéficiable pour les gens qui sont là parce que ça leur permet d'avoir cette vie sociale avec d'autres familles. Bon. J'ai pas de famille avec des jeunes enfants, pas encore. J'espère que ça va arriver, mais pour le moment, c'est surtout des jeunes qui ont entre, je dirais 20 et 30, 35 ans. Bon. Mais pour qu'il y ait une vie sociale véritablement équilibrée, il faudrait en fait qu'il y ait aussi des familles avec des jeunes enfants. J'espère que le bon Dieu permettra un jour que nous puissions avoir ces familles, même s'il y a un autre problème qui va se poser à ce moment-là, c'est que dans la petite chapelle que j'ai actuellement, dans mon oratoire, mais je ne peux pas mettre, même en poussant les murs, plus de 20 personnes. Donc, chaque chose en son temps. Donc, deuxième chose, deuxième point sur lequel les pères insistent, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, en s'approchant de la barque, en marchant sur la mer, manifeste sa toute-puissance. Rappelez-vous un passage similaire où, en pleine tempête, il dort au fond de la barque et les apôtres vont paniquer complètement. Et notre Seigneur Jésus-Christ est obligé de monter à l'avant de la barque et par un ordre de calmer le vent, calmer les vagues pour rassurer les disciples. Il va faire ici la même chose. Il y avait un grand vent, c'est le verset 18, et puis tout le monde panique, ils eurent peur à cause du vent. Et ils rament à contre-courant avec le vent de face, ils n'arrivent pas à avancer, et notre Seigneur Jésus-Christ marche sur la mer pour s'approcher de la barque. Donc les pères font remarquer qu'il y a là trois miracles réunis. D'abord, notre Seigneur marche sur la mer, premier miracle. Deuxième miracle, il calme la fureur des flots. Troisième miracle, il fait aborder aussitôt la barque au rivage, dont les disciples étaient encore fort éloignés lorsque le Seigneur apparut. C'est-à-dire qu'il monte dans la barque, et d'un seul coup, la barque, c'est le verset 21, la barque se trouva au lieu où ils allaient. Donc notre Seigneur Jésus-Christ multiplie les miracles, surtout avec ses apôtres, pour renforcer leur foi, leur espérance et leur charité. Bon. Il est évident qu'il y a un très beau sens mystique derrière, c'est que cette mer en furie, bien, représente notre âme qui est ballotté par les tentations, par les désolations, par le démon qui travaille, qui fait du bruit pour essayer de nous faire perdre notre paix intérieure. Et donc, ce miracle nous explique que notre Seigneur Jésus-Christ, à partir du moment où il est dans la barque, il est dans notre âme par l'état de grâce, eh bien, il va calmer la fureur des flots et il va nous amener là où nous sommes supposés aller, c'est-à-dire au ciel. Alors, voyons un petit peu ce sens mystique, donc en bas de la page 3. Dans le sens mystique, notre Seigneur commence par nourrir la multitude et se retire ensuite sur la montagne, selon ce qui était prédit de lui. L'assemblée des peuples vous entourera et à cause d'elle, vous remontez dans les hauteurs. Il dit remontez dans les hauteurs afin que l'assemblée des peuples vous entoure. Alors, mais, page 4, pourquoi l'évangéliste dit-il que le Sauveur s'enfuit, qu'on aurait pu le retenir malgré lui ? Donc cette fuite a une signification mystérieuse, disent les pères. Il nous apprend que la hauteur de ces mystères ne pouvait être comprise. En effet, vous dites de tout ce que vous ne comprenez pas, cela me fuit. Son Seigneur fuit donc seul sur une montagne lorsqu'il monte au-dessus de tous les cieux. Tandis qu'il est dans les hauteurs des cieux, ses disciples qui sont restés dans la barque sont exposés à la violence de la tempête. Donc on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas donner les mêmes explications à tous les hommes. Chaque homme est différent, chaque âme est différente. Donc il y a ceux qui restent au bas de la montagne, à savoir le peuple, et ils montent au sommet de la montagne, souvent on le voit dans l'évangile, avec les apôtres. Et ici, l'évangile dit, au verset 15, qu'il s'enfuit de nouveau tout seul sur la montagne. Et lorsqu'il monte sur la montagne, on a l'impression qu'il abandonne les apôtres et les disciples qui sont restés dans la barque, donc qui à ce moment ont pris la barque pour traverser le lac, sont exposés à la violence de la tempête, alors que notre Seigneur Jésus-Christ apparemment les a abandonnés. Et oui, il faut bien comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous abandonne pas, mais il attend que, si vous voulez, humainement parlant, la situation devienne de plus en plus catastrophique. Et lorsque, humainement parlant, il n'y a plus aucune solution, à ce moment-là, il intervient. Mais c'est un argument important, c'est une question qu'on nous pose très très souvent et de plus en plus souvent. Les gens me disent, mais monsieur l'abbé, mais qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le grand roi qui vient maintenant? Pourquoi on n'a pas le grand pape qui vient maintenant? Pourquoi on n'a que des bandits qui nous dirigent, que des bandits qui cherchent à tout détruire depuis Rome? Monsieur l'abbé, pourquoi tout ça? Eh bien, parce que le bon Dieu profite de cette situation pour voir où sont ses vrais serviteurs, où sont les vrais soldats. C'est facile d'être un bon soldat en temps de paix. En temps de paix, tous les soldats sont des bons soldats. C'est en temps de guerre qu'on voit, que Dieu peut voir, que le général plutôt peut voir où sont les soldats de valeur. Parce qu'en temps de paix, il n'y a pas d'occasion pour un soldat de valeur de manifester sa bravoure, sa brillance. Au contraire, c'est dans les périodes difficiles, surtout dans les périodes en pleine guerre, que là, on va pouvoir manifester. La personne qui veut devenir un bon soldat peut manifester sa bravoure. Eh bien, c'est la même chose avec nous, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Quand tout va bien, quand il n'y a pas de tentation, quand politiquement parlant tout est clair, quand il y a une union de l'Église et de l'État comme au Moyen-Âge, eh bien c'était relativement facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui on est dans une situation bien pire et le bon Dieu exige l'héroïsme. Mais quand il exige l'héroïsme, il donne des grâces proportionnées. Regardez ce que le bon Dieu demandait aux premiers chrétiens lors des grandes persécutions de l'année 67 à l'année 313, depuis la première persécution sous Néron jusqu'à la dernière sous Dioclétien. Il y a eu des millions de martyrs, et bien le bon Dieu demande, exigeait beaucoup. Bon, aujourd'hui c'est une autre sorte de persécution, mais n'oublions pas que le bon Dieu permet ce genre de persécution, et c'est une persécution extrêmement pénible, parce que c'est la goutte d'eau qui tombe jour après jour, tout le temps sur la pierre, qui finit par user la pierre. Eh bien, ces persécutions psychologiques contre nous, ces persécutions des gouvernements, cette persécution de Rome contre l'Église catholique, permet justement à Dieu de manifester sa puissance, et surtout permet aux catholiques de montrer au bon Dieu leur amour pour lui. Et c'est dans ces situations-là que les soldats que nous sommes, les soldats de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, peuvent manifester leur bravoure. Alors ne pas se décourager, parce que Dieu est obligé de donner aujourd'hui les grâces spéciales dont nous avons besoin. Certainement que les gens du Moyen-Âge qui vivaient sous Saint-Louis, avec des prêtres partout, et Saint Thomas d'Aquin, et Saint Dominique, et Saint François, juste à côté, bon, ils n'avaient sans doute pas besoin des forces spirituelles dont nous avons besoin aujourd'hui, parce qu'ils étaient dans une situation qui est différente. Notre situation est certainement plus comparable à la situation des grandes persécutions au début de l'histoire du christianisme. Cependant, il y avait tout de même une énorme différence avec la situation qui était celle des chrétiens au 3e, 4e siècle, et même au 1er siècle de l'histoire de l'Église, dès la fin du 1er siècle. Et il y a une différence essentielle, c'est qu'à l'époque, ils avaient des papes, des vrais papes, et des grands papes. Pratiquement tous les premiers papes de l'histoire de l'Église sont tous martyrs. Bon, et aujourd'hui, on n'a plus de papes, et ceux qui sont à Rome sont des traîtres. Et non seulement ne nous protègent pas, mais au contraire, essayent de nous enfoncer la tête dans la boue, la tête sous l'eau, pour qu'on coule encore un peu plus vite. La situation est différente. Mais Dieu donne les grâces. De même qu'il a donné les grâces aux premiers japonais qui sont restés pendant 300 ans après la prédication de Saint François Xavier, qui sont restés sans prêtre, ont tenu le coup parce que le bon Dieu donne les grâces. Donc ne pas se décourager. Oui. Alors on voit très bien ici ce point sur lequel les pères de l'Église insistent, que comme la foule veut l'enlever pour le faire roi, notre Seigneur Jésus-Christ va s'enfuir et il va monter sur la montagne. Il va apparemment abandonner le peuple et abandonner ses disciples. Et c'est pour ça que les disciples qui avaient prévu de traverser la mer le lac, eh bien, vont le faire sans notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être ont-ils pensé qu'ils étaient capables de traverser ce lac malgré la tempête qui était annoncée. Et en fait, ils ont vite se rendre compte qu'ils n'y arrivent pas parce qu'il y a un grand vent qui les empêche d'aller là où ils veulent aller. Alors, ils commencent à paniquer, commencer à avoir peur. Et notre Seigneur Jésus-Christ va descendre de la montagne, marcher sur la mer, s'approcher de la barque et monter dans la barque. Et va leur dire cette parole qu'il nous redit tous les matins, tous les jours, c'est moi, ne craignez point. Donc lorsque nous avons peur, parce que la persécution est là, parce que les écoles catholiques sont de plus en plus rares, parce qu'il est de plus en plus difficile de conserver un travail sans avoir un baillon sur la bouche et être vacciné 5 ou 6 fois, eh bien, avoir tous ces poisons qui vont absolument nous mettre dans les veines, eh bien, le bon Dieu nous donne les grâces, donne les grâces aux mères de famille, donne les grâces aux pères de famille, donne les grâces aux enfants, donne les grâces aux prêtres aussi, pour que nous puissions faire ce que nous avons à faire. Je l'ai remarqué. Combien de fois j'ai vu ça, par exemple, je prépare un sermon, et puis je me rends compte au dernier moment, juste avant de quitter la sacristie, qu'il y a une personne on vient me prévenir qu'il y a telle personne, par exemple, qui est dans l'église, qui n'est pas catholique, bon, qui tourne un peu autour de la chapelle depuis parfois très longtemps, qui enfin s'est décidé à assister à la messe. Bon, ben, très bien, je ne vais pas le mettre dehors, au contraire, je suis bien content qu'il soit là. Eh bien, je vais parfois avoir, j'ai remarqué plusieurs fois avoir des idées tout à fait particulière. Pendant le début du sermon, le bon Dieu met dans ma tête, dans ma bouche, sur ma langue, j'espère, des paroles, des idées auxquelles je n'ai pas du tout pensé auparavant, parce qu'il faut que je change un peu mon sermon pour m'adapter aux personnes qui m'écoutent. Et là, il y a un non-catholique qui m'écoute, il y a une personne, je sais qu'il a besoin d'aide, et il faut que j'arrive à toucher son cœur d'une façon ou d'une autre, et bien, le bon Dieu nous donne les grâces. Donc cette barque est à la fois la figure de notre âme. Donc notre âme, c'est l'explication que donnent les pères, notre âme donc est cette barque qui est exposée au vent, qui est exposée aux vagues, qui est exposée aux tentations, et donc nous aussi on est comme les apôtres, on a peur, et on panique complètement, et qu'est-ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ? On a l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas là, on a l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ nous a abandonnés, mais il ne nous a pas abandonnés, il est là, il marche à côté de nous, mais on ne le voit pas, et il nous porte dans ses bras littéralement pour nous aider à ne pas nous décourager. Et rappelez-vous cette belle image qu'on retrouve parfois, j'aime bien cette histoire, je ne sais pas exactement d'où elle vient, mais de ces pas dans le sable. Donc je marche avec notre Seigneur Jésus-Christ, et puis Je vois les doubles pas, la trace des pas de notre Seigneur Jésus-Christ et les miens à côté. Et puis à un moment, il n'y a plus qu'une seule trace de pas. Alors je demande à notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur, Seigneur, pourquoi m'avez-vous abandonné dans ce passage qui était pourtant tellement dangereux? Et là, vous m'avez laissé marcher tout seul. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous explique que ce ne sont pas tes pas qui sont imprimés là sur le sable, ce sont les miens. Et pendant lors de ce passage, je savais que c'était un passage dangereux. Pour que tu ne tombes pas dans les sables mouvants, eh bien, c'est moi qui te portais. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus qu'une seule trace de pas, savoir les miens. Vous voyez ? Donc, là, cette petite barre qui vogue au gré des vagues, au gré des vents, poussée par les vents de la tentation, les vents de la désolation, les vents des difficultés, c'est notre âme. Mais c'est aussi, nous disent les pères, la Sainte Église. Cette barque est la figure de l'Église. Page 4. Il faisait déjà nuit. Il n'y avait donc rien d'étonnant. La vraie lumière ne brillait pas encore. Jésus n'était pas encore venu les trouver. C'est ça que c'est la nuit, parce que le soir est venu et ils veulent traverser de nuit le lac. Et cette nuit s'explique par le fait que notre Seigneur Jésus n'était pas dans la barque. La lumière du monde n'est pas là. Et donc, comme la lumière du monde n'est pas là, ils sont complètement en état de cécité spirituelle, ils ne voient plus rien, et ils paniquent complètement. Plus approche la fin du monde, et plus aussi on voit croître les erreurs et augmenter l'iniquité. En effet, la charité est lumière, selon les paroles de Saint Jean, celui qui est son frère demeure dans les ténèbres. Donc les flots qui agitent le navire, la tempête, les vents, sont les clameurs des réprouvés. Vous voyez ? Les clameurs de ceux qui paniquent complètement, qui ne cherchent pas à faire monter notre Seigneur Jésus-Christ dans la barque. Donc rappelez-vous, la tempête apaisée, notre Seigneur est dans la barque, on ne comprend pas, parce qu'il y a des vagues terribles, la barque prend haute toute part, et notre Seigneur dort, mais il est là, c'est ça qui compte. Vous voyez ? Donc il faut, au moment de la tempête, alors que les flots agitent le navire, la tempête, les vents sont là, les vagues sont de plus en plus puissantes, de plus en plus profondes, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chercher notre Seigneur Jésus-Christ, appeler notre Seigneur Jésus-Christ, le faire monter dans la barque. Rappelez-vous, l'aveugle qui est au bord du chemin et qui entend, il mendie au bord du chemin et puis il entend une foule qui, du bruit autour de lui, il y a beaucoup de gens qui s'approchent, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, mais c'est Jésus de Nazareth. Alors il se met sur son séant, il monte, il se lève et puis il crie, Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Il va répéter son cri plusieurs fois, on le fait taire parce qu'on n'entend plus notre Seigneur Jésus à cause des cris de l'aveugle. L'aveugle continue, Seigneur Jésus, et fils de David, ayez pitié de moi. Et notre Seigneur Jésus qui arrive, il n'arrive pas tout de suite. Il attend que les cris soient répétés. Et répétés. Il attend peut-être plusieurs secondes, plusieurs minutes, on ne sait pas. Puis il vient. Que voulez-vous que je fasse, Seigneur, que je vois? Et notre Seigneur va faire le miracle. Et là, c'est pareil. Donc, lorsque les flots sont dangereux, lorsque la tempête gronde, eh bien, il faut appeler notre Seigneur Jésus-Christ et continuer de l'appeler, même si notre Seigneur Jésus-Christ ne lâche pas tout pour venir immédiatement. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas tenu de venir immédiatement dès qu'on l'appelle. Dans bien des cas, il attend. Il attend parce que il sait que nous avons besoin d'augmenter notre confiance en lui et qu'il doit manifester sa toute-puissance, disent les pères. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ parfois se fait attendre. Et c'est au moment précis où on a l'impression qu'il n'y a plus aucune solution humainement parlant que notre Seigneur va intervenir. L'exemple classique qu'on donne tout le temps pour expliquer ça, c'est l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas suscité Sainte Jeanne d'Arc tout à fait au début. Il a attendu qu'il y ait une jolie pagaille sur le plan politique, sur le plan militaire, dans toute la France. Les Anglais commençaient à tout envahir, ouvrant la porte au futur protestantisme qui allait arriver moins d'un siècle plus tard. N'oubliez pas qu'on est autour des années 1429. Et en 1517, c'est le protestantisme qui va répandre ses erreurs sur le monde avec l'apostasie de Luther. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas susciter Sainte Jeanne d'Arc immédiatement. Il va attendre, Et c'est au moment où, humainement parlant, il n'y a plus qu'une solution, qu'il va aller chercher cette petite jeune fille. En plus, il ne va pas chercher un chef de guerre ou un soldat en retraite qui se connaissait bien le maniement des armes. Il va chercher une petite jeune fille qui n'était même pas capable de parler français, incapable d'écrire, qui ne savait pas distinguer un A d'un B, qui ne connaissait rien au maniement des armes, qui s'était contenté de remplir son devoir d'état de petite bergère au service de ses parents et de manier la quenouille et s'occuper des vaches. Eh bien, c'est elle que notre Seigneur Jésus-Christ va aller chercher. Va aller chercher et il lui a donné pour mission de bouter les Anglais hors de France et de faire consacrer le roi Charles, le dauphin Charles, qu'il devienne Charles VII. Et c'est exactement ce qui va se passer. Oui. Mais encore une fois, humainement parlant, c'est pas du tout comme ça qu'on voyait les choses. N'oubliez pas que les Anglais seront boutés hors de France après la mort de Saint-Jean d'Arc, pas avant. Avant, on a l'impression qu'ils ont tout gagné. Et c'est au moment précis où elle est brûlée vive sur la place du marché de Rouen, le 30 mai 1431, qu'elle est brûlée vive, qu'elle soit brûlée vive, à ce moment-là, les Anglais se sont rendus compte qu'ils avaient brûlé une sainte. Nous avons brûlé une sainte, et après, sans aucune explication militaire, si vous voulez, ils reprennent leur bateau, ils s'en vont. La France est sauvée. Vous voyez ? Donc... Voyez, je pense que c'est deux points importants. La barque, c'est notre âme, la barque, c'est la figure de l'Église. Et les cris de ceux qui se sont désespérés, il y a des cris d'amour pour rappeler notre Seigneur Jésus-Christ et des cris de désespérés. Les cris désespérés sont les clameurs des réprouvés. Les cris d'amour sont les clameurs de ceux qui font confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. On voit très bien, par exemple, encore une image qu'on peut prendre, c'est Saint-Pierre et Judas. Saint-Pierre se précipite dans la miséricorde du bon Dieu, il pleure amèrement après avoir trois fois de suite renié son maître, et il va être pardonné, il va devenir Saint-Pierre, alors qu'au contraire, avec Judas, ben Judas va tomber dans le désespoir et va aller se pendre. La charité se refroidit, disent les pères, les flots ne cessent de monter, de battre les flancs du navire, et cependant ni les vents, ni la tempête, ni les flots, ni les ténèbres ne peuvent briser la barque et l'engloutir. Ni même l'empêcher d'avancer, car celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Mais on voit très bien, encore une fois, c'est le point important, Dieu attend. Dieu attend. Il ne vient pas venir immédiatement dans notre âme à la première appel. Seigneur, venez, 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 je panique, j'ai le démon qui frappe à la porte. Venez, 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 venez. Notre Seigneur Jésus-Christ se fait attendre. Mais tout en se faisant attendre, il va nous donner les grâces prévenantes dont nous avons besoin, pour que nous puissions résister à la tentation. Le démon cherche à rentrer, il n'est pas rentré. Puis une demi-heure après, le bon Dieu arrive. On a tendance à lui dire, mais Seigneur, que faisiez-vous? Où étiez-vous donc pendant tout ce temps? Ça fait une demi-heure que je vous appelle pour venir à mon secours, vous n'êtes pas venu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Et notre Seigneur Jésus-Christ pourra répondre ce qu'il a répondu à Sainte Catherine de Sienne, j'étais dans ton cœur. Et c'est parce que j'étais dans ton cœur que tu as trouvé la force de résister, de t'arc-bouter contre la porte pour être sûr que le démon ne puisse pas l'ouvrir. Et si j'avais pas été dans ton cœur, eh bien, tu aurais ouvert la porte au démon et tu serais tombé dans le péché mortel. Et si j'ai pas tombé dans le péché mortel, c'est pas grâce à tes propres forces, c'est grâce à ma grâce que je ne refuse jamais à qui la demande avec humilité. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Mais il faut persévérer jusqu'à la fin. Pour ça, ne pas se décourager, ça c'est quelque chose de très très fréquent, les gens se découragent, aujourd'hui c'est clair et net, ils se découragent, monsieur l'abbé, il n'y a plus rien à espérer, c'est fini, tout est fichu, tout est perdu. Non, tout n'est pas fichu, tout n'est pas perdu, parce qu'il y a encore notre Seigneur Jésus-Christ qui est là, il y a encore le patron, il y a encore le maître, il y a encore quelques prêtres, pas beaucoup, nous sommes très peu nombreux hélas, encore quelques prêtres qui disent encore la vraie messe, avec la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Remerciez le ciel si vous avez la possibilité de pouvoir... avoir accès à ces prêtres et avoir accès à la confession, à la communion. Pensez à tous ceux qui n'ont rien. Mais même ceux qui n'ont rien, qui sont dans les pays dans lesquels il n'y a plus rien du tout, eh bien pensez à ces pauvres gens et le bon Dieu leur donne les grâces pour qu'ils tiennent le coup. Je l'ai peut-être déjà dit il y a la semaine dernière, je crois que c'était, plusieurs fois, j'ai reçu un coup de téléphone de l'île de la Nouvelle-Calédonie, donc aux antipodes, de l'autre côté du monde. Et en Nouvelle-Calédonie, bon, il m'avait demandé absolument de mettre, s'il vous plaît, mettez la messe du mercredi décembre sur le site d'un mari pour qu'on puisse avoir quelque chose pour le mercredi décembre. Et je l'ai fait, pour lui faire plaisir aussi, parce qu'effectivement, c'était peut-être une bonne idée pour aider certaines personnes. Et j'étais d'ailleurs, le bon Dieu m'a bien fait comprendre que c'était une bonne chose, puisque cette messe du mercredi décembre, alors qu'elle n'était pas annoncée, eh bien, bien qu'il n'ayant pas été annoncé, elle a été vue déjà par 178 familles, alors qu'elle n'était pas annoncée. Et quand les gens me disent, mais monsieur l'abbé, votre site c'est ridicule, c'est tout petit, il y a quoi? Il y a 600, je sais pas combien, quelques abonnés, je sais plus combien exactement il y a d'abonnés, 621 abonnés actuellement, c'est rien du tout, vous avez presque personne, vous perdez votre temps. Non, je ne pense pas que je perde mon temps parce qu'une âme c'est une âme. Une âme c'est une âme et je le vois bien. Parce que le nombre des personnes qui se connectent au site, surtout à YouTube, pour avoir la messe du dimanche, eh bien, reste beaucoup plus important qu'avant. Avant, on restait autour de 150, 160 familles qui se connectaient. Maintenant, on a dimanche dernier, alors qu'il n'y a que 5 jours depuis la messe du dimanche dernier, le premier dimanche de carême, il y a 235 familles qui se sont connectées. Avant, c'est quand même des chiffres qui tiennent bien la route, 212, 221, 236, etc. Mais tant mieux, Deo gratias, remercions le bon Dieu pour tout ça, vous voyez, si ça peut aider un petit peu certaines personnes à conserver la foi. Et je sais qu'il y a des gens qui sont très loin dans les pays où il n'y a rien du tout, mais qui ne se découragent pas, le bon Dieu leur donne la grâce, les grâces dont ils ont besoin d'une autre façon. Mes pères de l'Église vont faire aussi quelques remarques sur les chiffres. Par exemple, le chiffre de 5 000 hommes qui sont nourris par notre Seigneur Jésus-Christ, les 25 ou 30 stables, tout ça, c'est des chiffres qui ont souvent une signification mystique. Surtout Saint Augustin qui s'est beaucoup occupé d'expliquer un petit peu les chiffres. Le nombre 5 est l'emblème de la loi. Rappelez-vous, les 5 livres de Moïse, les 5 premiers livres du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Sainte Bible, de l'Ancien Testament, sont écrits par Moïse et représentent la loi. Donc le nombre 25 est donc aussi la figure de la loi, puisqu'il est le produit du nombre 5 multiplié par 5. Donc c'est au verset 19. Vous voyez? Lorsqu'ils eurent ramé environ 25 ou 30 stades. Bon. Mais la perfection qui est signifiée par le nombre 6 manquait à la loi avant l'évangile. En multipliant 5 par 6, on obtient le nombre 30, figure de la loi accomplie par l'évangile. Donc 25 ou 30 stades, ça montre, si vous voulez, un début imparfait, le tout début des livres de l'Ancien Testament, et on monte vers le Nouveau Testament qui est représenté par le chiffre 30. Ici, c'est une explication qui n'est pas deux fois, bien sûr, mais c'est une explication, je pense que c'est Saint Augustin, qui explique que ce nombre 30 figure la loi accomplie par l'Évangile. Alors, notre Seigneur, disent les Pères, vient donc trouver ceux qui accomplissent sa loi en marchant sur les flots, et en foulant aux pieds toutes les vaines enflures de l'orgueil et toutes les hauteurs du monde. Et cependant, les tribulations sont si grandes que ceux-mêmes qui croient en Jésus tremblent d'y succomber. C'est des très belles explications des pères. On ne pense jamais à ces choses-là. Donc c'est ces vagues qui s'enflent, cette mer qui jaillit de tous côtés dans la tempête. C'est les creux des vagues qui se creusent de plus en plus, s'augmentent de plus en plus, représentent le monde moderne qui monte, qui descend, qui n'a aucune stabilité, les enflures de l'orgueil et les hauteurs du monde. Mais tout ça, c'est creux. C'est comme une baudruche, si vous voulez. Le monde moderne, c'est ça, une baudruche. Alors, un gros ballon, mais vous prenez une petite épine, une petite épine de rosier, vous piquez le ballon, pouf, ça éclate, il n'y a plus rien. Mais ça, c'est le monde moderne. Le monde moderne. J'aime bien cette explication. Donc, Dieu qui marche sur les flots, foule aux pieds toutes les vaines enflures de l'orgueil et toutes les hauteurs du monde. Eh bien, il faut faire la même chose. Si on a notre Seigneur Jésus-Christ avec nous, si on vit en état de grâce, attention, si on vit en état de grâce, eh bien, nous verrons très vite que nous avons avec nous une force invincible. Une force invincible capable de changer le monde. Changer le monde. C'est comme une image que je trouvais souvent chez certains docteurs. C'est l'image, si vous voulez, d'un énorme bloc de rochers qui pèsent 10, 20, 30 tonnes, qui est en équilibre sur un autre rocher. On voit ça dans les chaos. Ici, pas très loin de chez moi, il y a le chaos de Montpellier-le-Vieux. Je suis allé deux, trois fois. Il y a des blocs comme ça, ou dans les chaos, dans la région de l'Hérault, il y en avait aussi des blocs énormes, plusieurs dizaines de tonnes, qui sont en équilibre instable sur un autre bloc. Et on prend parfois un pieu, et on met le pieu entre les deux blocs, et en exerçant son poids, on peut faire non pas basculer complètement le bloc supérieur, mais le faire bouger. Parfois, en se mettant debout sur l'extrémité d'un bloc de plusieurs dizaines de tonnes, et bien on va voir qu'il va bouger, parce qu'il y a une perte d'équilibre. Le centre de gravité va changer avec la présence d'une personne sur le bloc. Mais donc c'est un peu ça. Donc ne jamais se décourager. Notre Seigneur Jésus-Christ veut que nous soyons justement comme des leviers avec lesquels il va pouvoir utiliser comme des instruments pour faire bouger le monde. Donc donnez-moi des soldats qui vivent en état de grâce, on pourra faire bouger le monde. On ne fera pas bouger le monde sans des soldats en état de grâce. Mais il faut des soldats en état de grâce. Rappelez-vous Sainte Jeanne d'Arc qui commence par exiger de ses soldats d'abord la confession, la communion. Confession, communion, et que toutes les femmes et filles de mauvaise vie qui étaient dans l'armée quittent l'armée. Voilà les trois conditions qu'elle a posées, c'est tout. Et elle a remporté la victoire à Orléans et bloqué l'arrivée, la progression des Anglais. Vous voyez. Alors, ici, il y a une note importante des pères au milieu de la page 4. Voyez encore comment notre Seigneur Jésus-Christ ne vient pas au secours de ses disciples au commencement du danger, mais longtemps après. On voit très bien dans le texte de l'Évangile, la mer se soulevait. Il faisait déjà nuit et Jésus n'était pas venu, il n'était pas encore là. La mer se soulève au souffle d'un grand vent. Ils virent à ce moment-là Jésus après qu'ils eurent ramé 25 ou 30 stades. Donc, ils ont ramé pendant une longue période, une longue distance. Donc, je voulais vérifier à quoi correspond le stade romain, je ne sais pas. Mais 25 ou 30 stades, c'est pas 100 mètres. Donc ils ont ramé pendant une longue période, une longue distance sur la mer. Et à ce moment-là, ils voient Jésus qui marche sur la mer, qui s'approche de la barque. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu faire un miracle et apparaître directement tout de suite dans la barque. Non, il marche sur la mer, il s'approche lentement de la barque. Et ils eurent peur. Vous voyez ? Donc notre Seigneur Jésus-Christ ne vient pas au secours, j'avais déjà expliqué ça, au secours de ses disciples. Les disciples, c'est nous les disciples aussi, tout à fait au début, il nous laisse nous dépatouiller. On a l'impression qu'on est tout seul, mais en fait il est déjà dans notre âme. Et c'est parce qu'il est dans notre âme que nous sommes capables de résister à la tentation. Nous serions absolument incapables de rester en état de grâce, ne serait-ce que quelques secondes, si le démon nous tente, sans une grâce prévenante de Dieu. Sans une grâce efficace de Dieu. Si la grâce n'est que suffisante, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, si la grâce n'est que suffisante, eh bien, nous allons tomber, parce que la grâce n'est pas suffisante, c'est d'ailleurs un drôle de constatation, la grâce suffisante, en fait, est insuffisante, parce qu'il faut qu'elle devienne efficace. Il faut un passage de puissance à l'acte, que la grâce suffisante devienne efficace pour que nous puissions résister à la tentation. Et ce passage de la puissance à l'acte, seul Dieu peut le provoquer dans nos âmes. Nous sommes incapables de le provoquer par nous-mêmes. C'est ainsi, disent les pères, que Dieu permet que nous soyons au milieu des dangers pour éprouver notre courage par ce combat contre les tribulations et nous enseigner à recourir à celui-là seul qui peut nous sauver alors même que tout espoir est perdu. Et c'est précisément quand tout espoir est perdu que notre Seigneur Jésus-Christ nous oblige à augmenter notre confiance et notre foi en lui. Quand tout va bien, encore une fois, tous les soldats sont courageux. C'est dans les périodes de tribulation, quand les bombes tombent de tous les côtés, qu'on voit où sont les bons soldats. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre dans cet évangile. Encore une autre phrase magnifique des pères, deux phrases qui me plaisent beaucoup. Première, notre Seigneur ne vient pas au secours de ses disciples au commencement du danger, mais longtemps après. Deuxième phrase, c'est lorsque l'intelligence de l'homme est à bout de ressources et déclare son impuissance que le secours de Dieu arrive. Sous-entendu, tant que l'homme n'a pas reconnu qu'il ne peut rien faire sans Dieu, Dieu n'arrive pas à son secours. Il faut que l'homme ait l'humilité de reconnaître, là je ne peux plus rien faire par moi-même. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans des périodes difficiles, où vraiment, je ne pouvais plus comment me sortir de certaines difficultés, certains problèmes. Et je dis, ouais, mon Dieu, écoutez, là, j'ai vraiment besoin de vous, si vous ne faites pas quelque chose, je ne sais pas ce que je vais faire. Et puis, le bon Dieu arrivait par des chemins détournés. Parfois, c'était des histoires financières, des grosses factures à payer. Genre, on avait fait des neuvaines, on a fait des neuvaines et des neuvaines à Saint-Joseph et à tous les saints du paradis pour obtenir que ces dons arrivent de la part du bienfaiteur. Et puis, ça n'arrivait pas. Et puis, moi, j'arrivais au bout de l'échéance. Il fallait que je trouve de l'argent pour payer cette grosse facture pour la maison que je dirigeais à l'époque. Eh bien, la facture, elle arrivait. Et puis, les dons arrivaient, mais pas au début. Ils arrivaient à la fin. Quand j'étais presque énervé, j'ai presque perdu courage, « Oh, le bon Dieu ne s'occupe pas de nous, il nous laisse nous dépatouiller. » Eh bien, à ce moment-là, les dons arrivaient. Et uniquement la somme dont j'avais besoin, pas plus. Il aurait pu me demander, me donner un peu plus pour que je fasse des économies pour les prochaines échéances. Non, donner simplement ce dont j'avais besoin. Donc c'est dans la vie de Saint-François qu'il y a un passage comme ça, où les frères franciscains paniquaient un peu parce qu'ils ne pouvaient rien à manger dans le monastère. Alors Saint-François fait faire des prières pour que notre Seigneur Jésus-Christ vienne nourrir ses moines. Et Saint-François est parfaitement confiant en bon Dieu, mais les autres personnes, les moines, eux, ils avaient moins confiance, pas assez confiance justement dans le bon Dieu. Finalement, pour répondre aux prières de Saint-François, voilà des dons qui arrivent. La nourriture arrive, des gens viennent apporter de la nourriture, et ils en amènent même plus que ce qui était nécessaire. Alors, le cuisinier du monastère se dit, ah, ben ça c'est bien, j'ai non seulement de quoi nourrir tous les frères ce soir, faire un bon repas pour les frères, et puis le reste, je vais le garder en réserve pour demain, au cas où on n'ait pas de don demain. Et Saint François l'a appris, il n'était pas content. Il a dit au cuisinier, non, il ne faut pas faire de réserve pour demain, à chaque jour se fait sa peine, demain, le bon Dieu pourvoira. Donc, ces dons qu'on a en trop, dont nous n'avons pas besoin pour ce soir, vous allez donner aux pauvres dès ce soir. Parce qu'il faut faire confiance au bon Dieu. Voilà comment réagissaient les saints. Donc, c'est en effet, c'est que lorsque l'intelligence de l'homme est à bout de ressources et déclare son impuissance, que le secours de Dieu arrive. Si nous voulons nous aussi recevoir Jésus-Christ dans notre barque, c'est-à-dire lui offrir une habitation dans nos cœurs, dans nos âmes, rappelez-vous que la barque c'est aussi le symbole de l'âme, nous arrivons aussitôt au rivage où nous devons aborder, c'est-à-dire au ciel, à la porte du ciel. Mais il faut faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Si je ne lui fais pas assez confiance, eh bien à ce moment-là, je vais rester au milieu du lac et je ne vais pas arriver à aborder là où je dois arriver. Cette barque, il y a des phrases magnifiques des pères, cette barque ne porte point d'hommes indolents et paresseux, elle veut des rameurs vigoureux. C'est ainsi que dans l'église, ce ne sont point les âmes molles et nonchalantes, mais les âmes fortes qui persévèrent dans la pratique des bonnes œuvres qui parviennent au port du salut éternel. Vous voyez, le soldat est un combattant. Ce qui tue les soldats, c'est le pacifisme. Le soldat qui ne veut plus se battre, qu'est-ce que vous qu'on fasse d'un soldat qui ne veut pas se battre, qui a peur de se battre, qui se cache, qui se calfeutre dans sa chambre, sous son lit, parce qu'il a peur de se battre, parce que les bombes tombent de tous côtés. Eh bien non, le bon Dieu, justement, veut aujourd'hui des âmes vigoureuses. Et s'il fallait définir le monde moderne dans lequel nous vivons actuellement, c'est un monde d'assédie, un monde de paresse spirituelle, un monde de paresse intellectuelle, un monde de paresse psychologique. On ne fait plus rien, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit, parce qu'on est devenu tellement paresseux qu'on a peur de notre ombre. Donc il faut des âmes fortes. Et les âmes fortes, malheureusement, sont de plus en plus rares. Il y en a encore. Moi, j'en ai connu. J'en ai rencontré plusieurs fois dans ma vie de prêtre des âmes fortes, vaillantes, surtout des convertis. Et c'est triste à dire, mais souvent, on a on voit plus de force et plus de persévérance chez les convertis que chez les catholiques de tradition de longue date, qui peut-être, justement, parce qu'ils ont toujours été des catholiques de tradition, manquent un peu de force. Alors qu'on voit très bien, au contraire, dans chez les convertis, parfois des forces de caractère extraordinaires. Je me rappelle très bien, au début, c'est autour des années, quand j'étais tout jeune prêtre, j'étais ordonné prêtre en 1979, quand j'étais tout jeune prêtre, déjà par exemple aux États-Unis, en 81, il fallait voir déjà, on ouvrait des chapelles un peu partout, mais on n'avait pas d'argent pour ouvrir des chapelles. Il y a encore peu de gens, et donc en général, les gens d'une ville appelaient le prêtre, et puis ils devaient organiser une chapelle à la va-vite le dimanche après-midi, parfois à 5h de l'après-midi, parce que le prêtre avait d'autres messes à lire auparavant, et puis le prêtre arrivait à l'aéroport, on venait chercher l'aéroport, pendant ce temps-là, des fidèles devaient aménager complètement une chambre d'hôtel, ou une salle d'hôtel pour en faire une petite chapelle, mettre des prie-dieu, arranger un petit peu, préparer les bouquets, etc. Tout ça était important, et tout ça a été fait, il fallait qui se battent. les familles devaient faire parfois des centaines et des centaines de kilomètres pour pouvoir assister à la messe. Et donc ça donnait une force, des convictions extraordinaires. Ils avaient la douceur, la force et les convictions. Mais avec le développement des œuvres, autour des années après, plus tard, déjà autour de l'année 2000, on sentait très bien qu'il y avait, si vous voulez, il n'y avait plus besoin de tout organiser, il n'y avait plus besoin de se lever tôt le matin pour faire des kilomètres pour assister à la messe. Tout était organisé, on avait les chapelles, on avait tout ça. Donc ne pas nous décourager, mais bien comprendre qu'un soldat manifeste sa force pendant les temps de guerre. J'ai bien vu ça dans les chapelles, en France c'était la même chose d'ailleurs. Les jeunes sont plus, n'ont plus à faire les mêmes efforts qu'avant. Il y a des jeunes qui n'ont connu que la messe traditionnelle, ils ont tout sous la main, ils ont les écoles, ils ont la chapelle, ils ont tout sous la main, ils n'ont plus besoin de faire des tas de choses pour avoir la messe traditionnelle, et donc ils deviennent de plus en plus superficiels. Et je vois dans les chapelles, avec les changements dans certaines chapelles, entre autres sur le plan moral. Avant, les gens faisaient des gros, gros efforts. Ils faisaient des efforts aussi sur le plan vestimentaire. On voyait très bien au niveau des dames, des femmes, des jeunes filles qui s'habillaient correctement dans les chapelles. Et maintenant, il y a un laisser-aller dans certaines chapelles. Quand j'étais dans la Fraternité des Impédis, c'était vraiment une pagaille monstre. Parce que de plus en plus, dès qu'on lâchait un petit peu la bride du coude de nos fidèles, tout de suite, les femmes arrivaient en pantalon dans la chapelle, en jupe trop courte, sans voile, etc. Bon, je dois avouer que dans les milieux de la tradition, c'est les vacantistes, on n'a pas trop ce problème. J'avoue qu'avec mes fidèles, je n'ai pas de problème de tenue. Les gens ont compris par eux-mêmes qu'on s'habille correctement pour assister au Saint-Sacrifice de la messe. Bon, malheureusement que ma vieille maman, qui est complètement moderniste, mais brave, et qui refuse catégoriquement de se mettre en robe et d'avoir un voile sur la tête dans ma chapelle le dimanche. Bon, c'est ma croix, mon humiliation, mais bon, j'espère que petit à petit, elle comprendra avant de mourir. Prions pour elle. Donc, troisième phrase, donc importante, je répète ces trois phrases. Notre Seigneur ne vient pas au secours de ses disciples au commencement du danger, mais longtemps après. Deuxième phrase, c'est que lorsque l'intelligence de l'homme est à bout de ressources et déclare son impuissance, que le secours de Dieu arrive. Troisième phrase, dans cette barque ne porte point d'homme indolent et paresseux, elle veut des rameurs vigoureux. Voilà. Donc depuis le lieu où le Christ nourrit les 5000 hommes, à mi-chemin entre Bethsaïde et Tibérias, il y avait une distance de 6 km environ. Miraculeusement, donc le bateau se retrouva à Capharnaüm. Capharnaüm, c'est la ville du Christ. La ville de notre Seigneur, c'était Capharnaüm. C'est là où il avait en quelque sorte son bureau. En prenant un terme moderne, c'est là où il avait sa résidence habituelle, Capharnaüm. Le bateau se retrouva à Capharnaüm, couvrant d'un coup une distance d'une douzaine de kilomètres. Donc, en accomplissant toutes nos actions avec le Christ, nous l'aurons comme chef et comme guide. Avec lui, de grandes choses peuvent être faites, mais rien ne se fera sans lui. Donc il faut vraiment augmenter la confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans une belle phrase de saint Ambroise, il est venu en ami, il commande en Dieu. Bon. C'est aussi ici l'image de la volonté. Comme la volonté dans l'homme peut être affaiblie par la fièvre des différentes passions. Mais comme elle se relève vite, comme elle devient forte quand elle se met au service de Christ. Vous voyez vous voyez, c'est une nouille cuite, ça représente une âme sans notre Seigneur Jésus-Christ. Si au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ règne dans notre âme par l'état de grâce, à ce moment-là, la nouille cuite devient une barre de fer. Vous voyez, et c'est très beau de voir ces âmes de convertis surtout, qui sont capables de faire des choses extraordinaires que parfois les fidèles qui ont toujours été dans la tradition sont plus capables de faire. J'ai souvent cité les exemples extraordinaires que j'ai vus, entre autres en Australie, de gens qui étaient capables de rouler des centaines et des centaines de kilomètres pour avoir la messe. Hein. J'ai souvent donné l'exemple quand j'étais à la chapelle de Townsville, dans le Queensland d'Australie, il y avait un fidèle qui venait à la messe, qui faisait 7 heures de voiture pour venir à la messe. 7 heures aller, 7 heures de retour, 14 heures de voiture pour assister à la Sainte Messe. Bon, il venait passer la nuit dans la ville de Townsville, parce qu'il y avait son frère qui habitait là, mais c'est quand même extraordinaire, vous voyez. Puis surtout qu'il habitait en plus dans le centre minier, Donc il y avait beaucoup de pistes ou des routes qui n'étaient pas en très bon état. Eh bien, il faisait des kilomètres et des kilomètres. Hein. J'ai connu des familles qui le faisaient lever le dimanche, tous les enfants, à 5 heures du matin, les mettre tous à moitié endormis, les envelopper avec une ouverture, on les met dans la voiture et on conduit 3 ou 4 heures pour être à la messe de 9 heures. Voilà, et être arrivé à l'avance sans plus pouvoir se confesser. Alors que les parents, le père de famille et la mère de famille auraient bien voulu pouvoir profiter un peu du dimanche pour pouvoir enfin dormir un peu. Le père de famille, qui souvent était obligé déjà de se lever très tôt le matin en semaine à cause de ses activités professionnelles, le dimanche il aurait bien aimé pouvoir dormir un peu. Et bien non, le dimanche il fallait se lever encore plus tôt que les autres jours parce qu'il y avait des kilomètres et des kilomètres à faire pour assister à la Sainte Messe. Et voilà pourquoi je tiens absolument à ce que nos chapelles deviennent vraiment des centres où une vie de famille sociale catholique puisse vraiment avoir lieu, que les gens puissent rester après la messe. J'espère pouvoir arranger ça de plus en plus. Je voudrais même pouvoir, une fois par mois, faire un repas où chacun amène un petit peu ce qu'il peut pour qu'on puisse avoir un repas ensemble, surtout là avec les beaux jours qui reviennent, une fois par mois, après la messe du dimanche. On va voir. C'est d'organiser les choses petit à petit. Donc, en accomplissant ainsi toutes nos actions avec le Christ, nous l'aurons comme chef et comme guide. Avec lui, de grandes choses peuvent être faites. Mais rien sans lui, sans moi. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit, sans moi, vous aurez des problèmes, des difficultés à faire ce que vous devez faire. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, sine me nequit potestis facere, sans moi, vous ne pouvez rien faire, ça veut dire aussi, sous-entendu, avec moi, vous pouvez tout faire. Deux choses sont liées. Alors, donc si l'âme se relève vite, donc voilà la phrase ici, c'est l'image de notre volonté. Donc il est venu en ami, il commande comme Dieu. La volonté de l'homme peut être affaiblie par la fièvre des différentes passions, par les concupiscences, par les désolations, par toutes les difficultés, mais elle se relève vite. Elle devient immédiatement forte parce que c'est au service du Christ. Autre remarque de Saint Grégoire le Grand, bon, c'est la fête demain. J'enregistre cette conférence le 11 mars, et demain c'est la fête, 12 mars, c'est la fête de Saint Grégoire le Grand, Saint Grégoire Ier. Donc Jésus-Christ, dit Saint Grégoire, commence à enseigner depuis cette barque à la foule qui se tient proche de lui sur le rivage. Il veut que la barque s'écarte quelque peu du rivage afin de montrer que sa doctrine n'est pas de la terre. Cependant, il ne veut pas qu'on s'en écarte beaucoup, pour apprendre à ses prédicateurs qu'ils se doivent aux ignorants, qu'ils ne doivent pas leur donner une doctrine trop élevée. Et ça, c'est encore, vous voyez, comme ces petits détails dans les évangiles qui semblent n'avoir aucune importance, pour les pères ont toute une importance. Vous voyez? Donc, la barque doit s'éloigner un peu du rivage, parce que l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un enseignement terrestre, c'est un enseignement céleste. Donc on s'éloigne de la berge, on s'éloigne du rivage. Il ne faut pas aller trop loin non plus pour que les fidèles entendent bien ce qui est dit. Donc les prédicateurs doivent faire très attention dans leur prédication, enseigner de telle façon que les fidèles puissent bien comprendre ce qui est expliqué. C'est Saint Alphonse de Liguori qui avait beaucoup insisté là-dessus avec ses rédemptoristes. Le fondateur des rédemptoristes, et dès qu'il voyait qu'un de ces rédemptoristes prêtres commençait à reprendre le style pompeux et entourloupé du grand siècle, comme on dit, avec des formules beaucoup trop compliquées pour les fidèles, il interrompait net le sermon, il prenait la place du prédicateur pour finir lui-même le sermon, parce qu'il ne pouvait pas supporter que les prédicateurs prennent le style extrêmement compliqué qui était encore très en vogue dans les milieux mondains. Bon, on peut bien sûr admirer les sermons de Bossuet, mais il est évident que si un prêtre, dans un milieu un peu simple, commençait à parler avec les mots de Bossuet, il serait incompréhensible. Moi, j'ai connu un prêtre comme ça, qui était pourtant un très saint prêtre, mais il parlait avec il avait une très grande culture française, une très grande culture de la langue française, et il ne se rendait pas compte qu'il parlait à des gens tout simples, avec des mots qu'il est dépassé complètement parce qu'il parlait un langage tellement, tellement châtié, tellement recherché en français, qui était devenu incompréhensible pour les gens qui n'avaient pas une bonne éducation. Vous voyez, donc attention à ça. Donc c'est pour ça, c'est Saint Jérôme qui parle, que notre Seigneur va choisir des hommes sans lettres, afin de bien établir que la foi qu'il vient donner aux âmes ne sera pas l'œuvre de la science. Tout ce qu'ils possèdent et tout ce qu'ils transmettent aux âmes, ils l'auront reçu de lui. Tout ce qu'ils seront, ils le seront par lui. Donc tout ce qui est bien en moi vient de Dieu, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est de mauvais en moi vient de moi-même. Et maintenir dans la vertu d'humilité. Voilà, donc je vais arrêter là parce que ça fait déjà une heure que je vous parle. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.